Le grand jury de la presse immobilière. Une émission en partenariat avec Bien Ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency sur Radio Immo.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est 18h33, vous êtes sur Radio Immo, nous sommes en direct pour le numéro du grand jury de la presse immobilière. Je vous le rappelle, c'est une heure en direct tous les mois autour des problématiques immobilières. On va parler des prix, on va parler d'un marché immobilier qui était un peu chahuté, bien évidemment, en ce mois de mai. On est ravis d'être avec vous. Au sommaire de l'émission, nous allons commencer comme l'habitude avec la météo de l'IMO présentée aujourd'hui par notre ami Régis Sebi. Vous nous avez manqué le mois dernier, mais on avait de la chance, nous avions David Benbassa, votre président.
Oui, bah c'est aussi bien.
Voilà, on est ravis. Monsieur Data du portail Tendance Immobilière, bien ici, vous nous présentez la météo comme chaque mois. Ensuite, on passera la revue de presse du grand jury et de nos journalistes. Et on passera également ensuite au grand débat avec notre invité du jour. Il est sur le plateau. Il est directeur général France de WeInvest. C'est Xavier Belbeau. Bonsoir Xavier Belbeau.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous, vous êtes notre grand invité sur ce grand jury de la presse immobilière. Autour de nos journalistes, on accueille la plume de l'immobilier la plus célèbre de France. Il est rédacteur en chef adjoint au journal Le Point, c'est Bruno Monnier-Binard.
Bonsoir Sylvain.
Comment
bonsoir
ça va Bruno?
Bien, bien, merci.
Merci d'être avec nous. Voilà l'excellent animateur sur Sud Radio, il sévit tous les week-ends dans la matinale.
En bande organisée.
Voilà. Voilà, ouais, vous avez remarqué, on voit tout de suite qu'il fait de la radio, que c'est génial. C'est notre ami Jean-Marie Bordry.
On est là pour ça aussi. Merci. Bonsoir à vous, Sylvain.
Voilà, avec qui j'ai le plaisir de faire Parlons Immo tous les vendredis matins avec notre super rédactrice.
Tous les samedis matins.
Je suis en direct, hein, donc il n'y a pas de problème, oui, c'est irrattrapable. Voilà, notre super rédactrice en chef qui est avec nous sur le plateau, Bérénice de Villefloriot.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Mieux, ce serait de la gourmandise.
Ah.
Signé, je ne dirai pas qui.
Vous savez ce qu'on dit? Voilà, Fayotte. Voilà, ça c'est écrit. Là, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Théo. Voilà, dites des mensonges, vous êtes cru, dites la vérité, vous êtes cuit.
Voilà, j'adore.
Bon, très bon. Merci Bérénice. Voilà, alors on a aujourd'hui une nouvelle adhérente au club, un club très sélect hein, de tous les journalistes de la presse immobilière.
Et c'est très bien, c'est une femme.
Alors, pas qu'une plume, c'est aussi une pensée dans l'immobilier. Elle connaît très très bien le secteur depuis longtemps. Elle est fondatrice et présidente de Amat Résonance. C'est Séverine Amat.
Bonsoir à tous.
Bonsoir et ravi. Voilà. On va graver le rond de serviette de Séverine. Elle fait partie, elle sera adoubée par nos amis de la presse immobilière. Bien évidemment, on pense aussi à tous les membres du grand jury, à notre Marie Corderoy nationale chez BFM Business, voilà, qui se fait un peu trop, d'ailleurs, un peu trop absente ces derniers temps, mais il faut dire que maintenant qu'elle a sa tranche horaire quotidienne, elle est beaucoup mieux. Aussi une petite pensée pour notre Isabelle, notre belle Ray Lefebvre, présidente de la GIBAT, et également de Virginie Groslot. Voilà, notre Virginie, on l'embrasse bien fort. Voilà, c'est parti. Voilà, pour cette première chronique du grand jury, on va passer à la météo de l'IMO.
La météo de l'IMO, par Bien Ici.
Régis, mon cher Régis.
Oui.
Comment ça va
Sylvain. Très bien, très
c'était
bien.
C'était bien les vacances.
C'était super
ouais,
bien.
C'était bien.
Voilà, je me rappelle même plus comment c'était les vacances, mais j'ai bien apprécié.
Bon, en tout cas, vous nous avez vraiment manqué. On est ravis de vous retrouver. On va faire un point. Voilà, c'est un peu comme les marronniers. Il fait beau, c'est l'été. Tout le monde est sur le parcours résidentiel. D'ailleurs, notre grand invité va nous donner un petit peu les bons plans, justement. Le bon plan, j'allais dire le bon plan du week-end. Non, c'est pas exactement ça. Mais en tout cas, pour le marché résidentiel. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui lorsqu'on prend le recul? On a fait la météo en janvier, on est en mai. Est-ce qu'on peut dire que ce qu'on avait programmé, pronostiqué, est conforme à ce qu'on avait imaginé?
Alors, est-ce que c'est conforme aux prévisions? J'ai envie de dire oui. Déjà, on a parlé d'un premier pas de redémarrage au premier trimestre. Et là, ça se confirme encore sur les derniers chiffres avec, si on regarde par rapport à l'année dernière, une demande qui progresse encore sur le marché transactionnel de l'ordre de 10%. C'est-à-dire que la demande continue de progresser. On a bien de l'activité, en tout cas sur les sites d'annonces immobilières et sur la consultation, jusqu'à aller prendre des rendez-vous en agence. Donc, on se lance un peu plus dans le projet. On est moins dans la simple consultation et dans le rêve. Ça y est, on se dit, on peut y aller, c'est le bon moment. Ça se redynamise, attention, surtout dans les grandes villes et sur une typologie plutôt appartement. On est sur une offre d'appartements qui progresse, elle, sur l'année de 3% quand la demande progresse de 21%, c'est-à-dire que la demande progresse beaucoup plus sur l'année que l'offre, alors que sur les maisons, c'est un peu plus en retrait, avec l'offre qui continue de progresser de l'ordre de 8% et une demande qui est un peu plus modérée en évolution, c'est seulement plus 2% par rapport à avril-mai de l'année dernière.
Alors si on devait résumer aujourd'hui.
Alors, si on résume, c'est une demande qui progresse plus vite que l'offre aujourd'hui, en tout cas dans son évolution, avec une dynamique qui est plutôt poussée par les grandes villes.
On a l'impression qu'on revient finalement à quelque chose de plus rationnel qu'on a connu avant l'effet Covid, où on avait eu cet exode, entre guillemets, vers les villes moyennes. Alors, l'offre progresse encore. Est-ce qu'on doit en déduire que, alors, sans faire de méthode couée, est-ce que les signaux de la reprise sont là ?
Alors, au niveau de l'offre, en tout cas, on va avoir une hausse qui est liée à plusieurs facteurs. On retient surtout un effet de contre-coup qui est lié à une période attentiste qu'on a connue, surtout quand les taux ont commencé à remonter et que les projets commençaient à se limiter. Quand on a un budget qui est limité par le coût du crédit, en gros, quand on est acheteur, qu'est-ce que ça traduit sur le marché ? C'est des biens qui ne se vendent pas aussi vite et du coup, une hausse de stock qui arrive avec une rotation qui est plus lente. Cette hausse de stock, elle s'est vue surtout déjà depuis fin 2022. Donc on était déjà dans une dynamique où les actes de renseignement et de vente se faisaient beaucoup moins avec des taux de crédit très élevés. Ça s'est poursuivi en 2023 et ça commence à revenir sur la demande depuis 2024, plus fortement cette année, mais les stocks sont très très hauts quand même. Là où on va voir une demande qui progresse aujourd'hui plus que l'offre en termes d'évolution sur l'année, on a aussi cet effet de stock qui reste haut et pour autant, la demande qui arrive aujourd'hui ne couvre pas l'excédent qu'on a connu depuis 18 mois, 24 mois.
Donc ça reste encore un peu timide, on va dire. C'est un frémissement.
Alors c'est un début de reprise, oui. Mais ce n'est pas parce que la demande arrive aujourd'hui que la transaction se fait tout de suite. Il faut compter souvent 3 mois, ouais. une fois que le lancement est effectué. Mais le niveau d'offre est quand même assez gros à ce niveau-là.
On peut aussi faire une corrélation entre la relation taux,
oui.
Qui a baissé, qui a trouvé son plateau et qui a relancé un peu le marché. Justement, je fais la transition, comment ça se traduit au niveau des prix ?
Alors, les prix, on va être sur l'indicateur clé du marché. Hein. C'est vraiment celui qui va mettre d'accord l'acquéreur et le vendeur. Ces prix, ils ont eu une tendance à la baisse sur l'année, même sur un peu plus d'un an. Et on va entendre un petit peu tout en ce moment avec des prix qui peuvent commencer à remonter dans certaines villes. Ce qu'on va retenir surtout, c'est qu'il y a un effet de stock. Parce que dans les transactions qui ont pu se faire sur ce redémarrage de début d'année, on a aussi des biens qui sont un peu moins chers ou un peu plus au prix et au budget des acquéreurs qui partent plus vite. Ce qui fait que si je regarde les prix sur une offre un peu plus large il y a 3 mois et les prix aujourd'hui avec des biens moins chers qui sont partis, ma tendance moyenne va avoir plutôt tendance à augmenter. On est globalement sur une tendance de baisse et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des prix globalement plus bas qu'au
plus haut. Tendance de baisse des prix.
Alors, une tendance de baisse des prix depuis 2 ans, c'est-à-dire que là où ils étaient plus haut en 2022, ils sont plus bas aujourd'hui, mais ils restent quand même globalement plus haut que ceux qu'on connaissait avant la crise sanitaire.
Bien sûr.
Voilà, on est dans cette lignée.
Oui. On a l'impression d'une correction un peu
traditionnelle, mais l'effet où ils ont été trop hauts vont dans la régulation aujourd'hui, parce que la vraie clé du marché, c'est le budget. Il faut que l'alignement entre le budget disponible et le prix affiché soit équilibré, sinon la vente ne se fait pas.
Donc la vraie crainte, c'est que la reprise du marché sera marquée par une hausse des prix qui serait vraiment, pas une bonne nouvelle. Quoi.
Alors ça serait pas une bonne nouvelle. Et en fait, la hausse des prix, si les prix sont trop hauts, forcément, ça va re-ralentir le marché parce qu'on est aujourd'hui limité par un budget. Donc si le budget ne colle plus, les acquéreurs vont plus franchir
parce qu'on
la
pourrait,
porte des agences.
On pourrait imaginer, à l'instar de ce qu'on a connu avec la baisse des taux, que finalement les vendeurs en profitent pour essayer de voilà, de surcoter ou peut-être de retrouver des prix qu'on a connus, qui étaient des prix fous quand même.
Et là où ça serait la mauvaise idée, c'est qu'on a une offre qui est assez conséquente. Et forcément, quand je suis acheteur d'un T3 à Paris, par exemple, et que mon quartier est identifié, je vais aller à celui qui correspond au mieux à mon budget, parce que j'en ai trois autres en face, j'ai un peu plus le choix aujourd'hui. Donc si quelqu'un augmente ses prix, forcément, bah, le vendeur se tire un peu une balle dans le pied à ce niveau-là, et il va vendre encore moins vite.
Alors le sujet qui fâche, qui est vraiment pas bon du tout, on a l'impression que ça s'améliore pas, mais franchement ça s'améliore pas, et les conséquences humaines pour les jeunes actifs qui arrivent dans les grandes métropoles, les familles désespérées, moi je regardais les demandes de logement en attente, logement social et autres, ça s'arrange pas sur le parc locatif, Régis.
Alors la location, oui, c'est une situation qui est difficile depuis presque 4 ans maintenant. On le voit, en fait, à chaque été, la rotation est de plus en plus rapide. C'est-à-dire que les biens en rotation, notamment les étudiants, les jeunes, qui libèrent leur logement au mois de juin, l'offre augmente à ce moment-là. Et souvent, au 14 juillet, bah, tout est passé et il n'y a plus grand-chose à louer.
Au grand désespoir des parents d'élèves, notamment, qui n'arrivent pas à trouver pour les études, quoi.
Exactement. Et là, je ne vais pas vous rassurer. C'est-à-dire que sur les 12 derniers mois, donc là, on est vraiment au début, au pré-lancement de la saison, sur les 12 derniers mois, on a une offre qui a encore diminué de l'ordre de 4% et la demande qui progresse encore de 13%. Donc, on va être sur un marché extrêmement tendu encore cet été sur la location.
Je rappelle quand même que les chiffres que vous nous avez donnés, qui sont quand même difficile, c'est qu'en septembre 2024, 17% des étudiants ont renoncé à leurs études faute de logement.
Oui, exactement. Oui. Et sur 2025, ça risque d'être encore plus difficile, ouais, malheureusement.
Ouais. On estime le chiffre d'ailleurs entre 17 et 22%. C'est très grave, quoi. C'est...
Par contre, je voudrais finir avec une lueur d'espoir. C'est-à-dire qu'on a parlé de la relance du marché, on a de l'accompagnement sur les primo-accédants, et on peut espérer que ces locataires qui rentrent dans la primo-accession, ben, viennent libérer un petit peu d'offres sur le marché locatif.
Sortir du marché locatif.
Et acheter maintenant, ça serait la bonne nouvelle pour les locataires à arriver en septembre.
Voilà, un immense merci Régis, toujours extrêmement intéressant votre météo de l'IMO, qui augure bien d'ailleurs de la revue à la fois du Grand Jury et du débat qui s'annonce. C'est la revue du Grand Jury dans un instant.
Le Grand Jury de la presse immobilière, la revue du Grand Jury.
Alors, je vous rappelle le principe, les amis, il est 18h44, vous êtes en direct sur Radio Immo. Le Grand Jury, c'est nos journalistes préférés ont un coup de gueule, un coup de cœur. Ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux, tout simplement. Et ils s'expriment librement, c'est le principe d'ailleurs de la radio. On va commencer par notre ami Jean-Marie Bordry. Alors vous avez un coup de gueule sur le projet de loi qui menace la archéologie préventive.
Oui, c'est un amendement plutôt qui a été déposé à ce projet de loi. Projet de loi de simplification de la vie économique. En gros, c'est un amendement déposé par des députés Horizon qui voudraient exonérer les projets, les chantiers dits d'intérêt national de fouilles d'archéologie préventive. L'idée, ce serait de faire gagner du temps, d'éviter de perdre du temps avant le début des travaux par l'archéologie. Ça s'inscrit en plus dans un contexte où l'archéologie préventive est plutôt en souffrance, c'est-à-dire que vous avez plutôt un manque d'effectifs actuellement, qu'en plus, les budgets ont tendance à être rabotés.
C'est quoi exactement l'archéologie préventive ?
Mais en gros, vous avez un chantier que vous devez faire, vous creusez quelque chose, vous devez intervenir sur le sol. Auparavant, vous envoyez des archéologues vérifier ce qu'il y a en dessous. C'est ce qui permet, par exemple, de manière plus ou moins anodine, de faire des trouvailles qui peuvent vous paraître anecdotiques, mais il y a un mois, dans la ville d'Abbeville, dans la Somme, il y avait un chantier de maison. On a lancé de l'archéologie préventive avant. On a découvert un bout de mâchoire de rhinocéros qui date d'il y a 600 000 ans. Alors, vous allez me dire, c'est un nonos, d'accord, mais il y a 600 000 ans, ça vous permet quand même d'avancer pas mal sur l'idée qu'on peut se faire de ce qui vivait sur ce territoire il y a quelques centaines de milliers d'années. Si vous ajoutez à ça le patrimoine historique du pays, ça peut être des ruines par exemple romaines, ça peut être des ruines grecques, il y en a beaucoup par exemple dans la ville de Marseille. Vous avez souvent des choses absolument formidables qu'on peut découvrir, qui ne sont pas forcément des choses que vous allez exposer, mais en revanche des choses qui vous permettent de faire avancer beaucoup la recherche, notamment historique et archéologique. Et c'est pour ça d'ailleurs que depuis 2001 qu'on a facilité l'archéologie préventive en France et qu'on l'a rendue quasiment systématique, on a énormément avancé sur la recherche en sciences humaines, précisément parce qu'on a tendance à beaucoup mieux savoir ce qu'il y avait avant sur ce territoire et qu'on ne fait plus comme dans les années 70 où, bon, on trouvait un os, on avait tendance à le jeter. On l'a fait à Orléans sur des chantiers pour la rénovation d'un cloître, par exemple. Vous aviez une nécropole en dessous, tous les ossements avaient été balancés sur le bord de la Loire, c'était un scandale. C'était les travaux de réaménagement du Campo Santo. Il y a eu d'autres chantiers d'autoroute dans les années 60, par exemple, où on s'est absolument peu soucié de ce qu'il y avait dessous. C'est dommage parce que, par exemple, l'autoroute A6, si vous me prenez cet exemple, c'était sur un certain nombre de lieux de haut intérêt archéologique et ça n'aurait pas été idiot d'attendre un an pour savoir ce qu'on aurait pu y trouver. Aujourd'hui, il ne faut pas dire que toute l'archéologie préventive va disparaître, ce n'est pas ça. Mais cet amendement veut mettre un coup de canif pour dire un projet d'intérêt national est dispensé de ce genre de recherche.
Voilà, de la... ah oui, mais
sauf
un
que
vrai
c'est
sujet...
con parce que la France n'est pas Dubaï et qu'on n'est pas construit sur du sable. Par conséquent, ce n'est pas inutile de perdre un peu de temps pour vérifier ce qu'il y avait en dessous. On ne sait jamais ce qu'on va trouver.
Merci Jean-Marie, ça mérite d'être clair. On va passer à Séverine. Alors Séverine, vous avez un coup de gueule en faveur des étudiants, bien évidemment.
Oui.
Alors ça reprend aussi ce qu'on disait tout à l'heure. Et vous nous expliquerez également votre coup de cœur. Alors vous, c'est les start-up et les solutions qui agissent pour les primo-accédants. On va commencer par le coup de gueule.
Oui. Tout à fait. Alors le coup de gueule, c'est contre Parcoursup en fait. Pourquoi ? Parce que Parcoursup, qui est censé garantir l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur, creuse en fait des inégalités. Des inégalités comment et où ? Eh bien sur les coûts exorbitants des études, notamment le logement. Et ça agit comme un filtre social invisible qui relègue en fait les étudiants modestes à des choix contraints. Se loger, eh bien, ça coûte cher pour des étudiants, surtout quand ils doivent partir de chez eux, hein, dans des grandes villes. Ça coûte entre 900 et 1000 euros par mois, donc c'est des budgets qui flirtent avec les 13 000 euros, même selon les associations d'étudiants, et qui augmentent de 7%, ne serait-ce que sur 2024 par rapport à 2023. C'est 60% des étudiants, et ça c'est l'association l'UNEF, nationale des étudiants de France qui le dit, 60% des étudiants consacrent plus de 50% de leur budget au loyer. Un budget moyen qui, effectivement, a atteint facilement 1000 euros, ne serait-ce que dans les grandes métropoles comme Paris, soit une augmentation de 9%. Donc le logement devient un obstacle majeur à l'enseignement et il incite 53% des parents à limiter la recherche d'orientation de leurs jeunes enfants, effectivement, parce que par rapport à ses coûts.
Donc la passion du jeune, ouais, sa recherche, son envie, ses espoirs, ses rêves sont anéantis par un fait, ouais, qui est lié au logement dans un pays où, normalement, l'égalité des chances devrait prédominer.
Exactement. Donc en fait, on se retrouve avec un logement qui devient un critère de sélection à part entière, souvent même plus déterminant que les notes. Voilà, donc ça c'est mon coup de gueule contre Parcoursup parce que, comme le disait bien ici, on a effectivement un parc locatif qui s'assèche de plus en plus, oui, d'année en année. On a des étudiants qui renoncent à leur cursus universitaire, académique. Vous disiez 17 à 22%. Moi j'ai un chiffre de 30% actualisé récemment par l'UNEF. Et donc on a un cri d'alarme à lancer pour ces étudiants,
oui, oui,
qui
sûr,
sortent de Parcoursup, qui sont déjà dans un stress extrême d'attendre le retour de Parcoursup avec le retour des vœux et qui sont déjà contre de se dire, bah, si c'est l'école idéale à laquelle j'aspirais qui me prend, eh bah, je serais peut-être obligée de refuser et de changer mon cursus et ma voie parce que je n'aurais pas de logement. Donc oui, je lance un appel même.
Oui. On posera d'ailleurs tout à l'heure dans le débat avec vous, Xavier Bellevaux, justement, pour réfléchir aux solutions, parce qu'il faudra nécessairement trouver des solutions. J'en profite justement que vous soyez là, Xavier, parce que je sais votre engagement sur le plan citoyen, avec les fondations que vous soutenez notamment, et c'est un vrai sujet. Mais c'est un sujet qui va nous péter à la gueule, je peux vous le dire, parce que quand ça démarre... Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que on l'avait fait sur BFM, je ne sais pas si tu te rappelles, Bérénice, on avait dit les personnes âgées qui ont une chute de revenus sont obligées de quitter leur logement parce qu'ils n'ont plus les moyens, et les jeunes pour entrer dans la vie active ont les mêmes difficultés. C'est très intéressant, ouais, de faire le parallèle entre les deux, c'est un vrai sujet.
Et c'est pour ça qu'il y a quand même une note positive à tout ça. Il y a des gens qui s'engagent et qui essayent de trouver des solutions, notamment la fondation I Love You, hein, avec la FNIM. Je ne peux pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas encore
lancé,
concrétisé, mais en gros, il y a un gros sujet et un gros projet porté par la FNIM pour et apporter en fait un logement aux étudiants et parallèlement à ça aider les seniors. Absolument. Aussi qui sont souvent seuls et isolés et qui bénéficient d'une pièce en plus qu'ils peuvent facilement allouer à ces étudiants pour leur cursus universitaire.
Voilà. Merci. On a aussi les startups et solutions qui agissent pour les primo-accédants.
Oui, c'est des startups qu'on ne connaît pas forcément et qui méritent d'être mis en évidence. Elles seront toutes représentées sur le salon RENT le 5 et 6 novembre prochain, donc c'est intéressant de le savoir parce que ça peut aussi susciter des rendez-vous. Mais c'est des startups qui existent et qui permettent aux primo d'avoir une solution de financement. Je pense notamment à Virgile, qui co-investit jusqu'à 100 000 euros dans le bien sans apport massif. Je pense aussi à Vasco, qui apporte des financements jusqu'à 100 000 euros avec des prêts relais structurés, particulièrement utiles pour les biens à rénover. Je pense aussi à Estia et à Sésame, qui proposent un leasing immobilier, location avec option d'achat, pour accéder progressivement à la propriété. C'est des aides qui existent au travers de ces startups et qui viennent compléter les aides publiques qu'on connaît tous. Donc on ne connaît pas forcément les startups.
On peut citer d'ailleurs aussi Xavier Lépine avec Néoproprio.
Néoproprio, tout à fait.
Tout ça, des solutions qui permettent d'améliorer le pouvoir.
Le bail réel solidaire, porté par Procivis notamment. Enfin, voilà.
Le logement, le LLI aussi, qui permet dans l'investissement immobilier. Parce que ça aussi, pour qu'il y ait des biens locatifs, il faut qu'il y ait des investisseurs, des petits investisseurs. On en parlera également avec Xavier Bellevaux. Merci.
Bref, je conclue. Oui. L'accès au logement étudiant comme à la propriété pour les jeunes ménages, ça reste une bataille d'ingéniosité, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute, se renseigner, prendre le temps, dans laquelle les start-up, les collectivités et les initiatives solidaires, portées notamment par la Fondation Elogio, mais il y en a d'autres, ont un rôle crucial à jouer. Donc il est temps que les politiques publiques aussi relaient ces innovations et qu'on redonne de vraies marges de choix à ceux qui n'ont ni héritage, ni réseau.
Il était temps que vous veniez dans le grand jury, ma chère Cyril. Voilà, nous attendions.
Merci.
Voilà. Merci. On va passer à Bérénice.
Oui.
Bérénice, on a un coup de gueule pour la fin du Pinel et on a un super coup de cœur pour les maisons bioclimatiques. On va commencer par le coup de cœur.
Oui, le coup de cœur.
Le
coup de gueule. Juste, je me joins également au coup de gueule de Jean-Marie. C'est vrai, hein, parce que moi j'avais échangé, je voulais juste réagir avec le président de l'INRAP, l'Institut National de la Recherche Archéologie Préventive, qui m'avait expliqué à l'époque que donc, depuis cette loi de 2001, il y en a 450 par an et qu'elles permettent aussi par exemple de répondre à des enjeux de dérèglement climatique. Pourquoi ? Parce que grâce aux fouilles, on peut comprendre comment à l'époque, donc il y a des milliers et des milliers d'années, les habitants luttaient contre le déluge. Voilà. Et en fait, ces fouilles, elles sont hyper utiles. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça.
Sais comment on peut lutter contre le déluge. Il faut faire une arche.
C'est vrai. Et mettre tous les animaux dessus.
On a un couple d'animaux dedans et on peut résister dans le bâche maison.
Elle est pas mal, celle-là.
Vous avez tous les week-ends. Hein, c'est
alors. C'est très bien. Et donc, mon coup de gueule, c'est
Pour la fin du Pinel, alors.
Alors, non, c'est... Enfin, l'exactitude, c'est la fin du Pinel sonne le glas de l'investissement locatif. Et en fait, je voulais mettre en valeur les chiffres de la FPI, donc la Fédération des promoteurs immobiliers, qui sont sortis là, le 15 mai dernier, concernant l'investissement locatif, moins 41,1%. Donc, on voit vraiment que les investisseurs immobiliers ont déserté. Et ce qui est assez dramatique, c'est que, vous l'avez compris, hein, ils étaient quand même nécessaires pour que les opérations immobilières sortent de terre. Et là, on a 26% de ces opérations qui sont retirées de la commercialisation. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est du jamais vu. En temps normal, il y a au maximum 5% de ces opérations qui sont retirées pour des raisons techniques. Là, c'est... J'ai demandé personnellement à Pascal Boulanger comment ça se passait. En fait, il m'a dit c'est très simple. Pour que le chantier soit lancé, il faut qu'il y ait en moyenne 50% de logements réservés. Hein. C'est c'est des logements donc, à acheter sur plan. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques ménages qui réservent, mais du coup, on n'atteint pas les 50%. Donc là, on attend, on essaye de les commercialiser, ça ne marche pas. Du coup, les Français qui avaient signé se retirent parce qu'ils ont besoin d'acheter un logement.
Et c'est double peine, quoi.
Et donc c'est double peine. Donc en fait, les promoteurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent on retire l'opération. Donc voilà, tout ça pour dire que le Pinel, c'est vrai que version 2004, c'était pas terrible, hein, c'était raboté, c'était affaibli, c'était réduit, mais c'était quand même utile. Hein, on le voit bien, là, les chiffres sont là depuis qu'il est terminé. Donc depuis décembre 2024, c'est la catastrophe.
C'est clair. Alors vous avez un coup de cœur. D'ailleurs, je crois qu'on a même des visuels.
Tout à fait. Alors j'ai même une petite vidéo pour vous.
Voilà, maison bioclimatique.
Tout à fait. Alors je me suis dit que j'allais vous faire rêver. En fait, j'ai eu un gros coup de cœur pour ça. Alors c'est pas de la pub, mais en fait, là, du coup, c'est à Gordes. Il y a peut-être, il y a aussi la musique qui est derrière, mais on va pas la mettre. C'est à Gordes, c'est à Vence, donc c'est dans le sud de la France. En fait, c'est des maisons circulaires bioclimatiques qui ont été imaginées.
C'est une vraie maison, ça, qu'on voit là.
Et ça fait vraiment rêver. C'est meublé par, à l'intérieur, c'est Laroche Beaubois qui fait le mobilier sur mesure.
C'est du gazon là qui est au-dessus là.
Oui, c'est du gazon, oui, oui. Ouais. Et en fait, c'est une ligne de, donc c'est des maisons très luxueuses hein, qui valent très cher. C'est proposé par Barnes International.
Qu'est-ce que c'est de bioclimatique?
Eh bien, c'est en pierre. Il y a des baies vitrées qui s'appellent luminescentes. Et c'est un concept unique, en fait, de menuiserie cintrée à galandage. D'accord. Et c'est pensé pour optimiser la lumière naturelle.
Ah, d'où et la circularité.
Tout est fait en sorte pour que la lumière puisse jouer.
Il n'y a pas de pièce sombre.
Exactement. Et donc voilà, je sais.
Puis la vue est belle en plus.
On pourrait la regarder. Est-ce que là, elle
est en boucle, justement, il y a un truc que je voudrais revoir. C'est, j'ai vu qu'il y avait un garage qui ressemblait à un jardin.
Tout à fait.
Attendez que je regarde bien là.
Et vous avez vu, donc tout est circulaire. Il y a une piscine aussi.
En fait, il n'y a pas d'angle droit.
Non.
Tout est. Oui, oui.
Donc vous trouvez les bons meubles, si vous voulez. Et donc la Roche Beaubois.
Regardez, c'est incroyable.
Un partenariat avec.
C'est pas mal.
On donne pas les.
On rentre par où?
On fait le tour.
On fait le tour, ouais, c'est ça. Non, il y a les petits escaliers là, au-dessus de la piscine. Donc voilà, c'est Curve, donc c'est lancé par Barnes International.
Super.
Et là, vous voyez, la piscine avec l'écran, évidemment. Bernice,
juste pour, pour que ça calme nos ardeurs, ça coûte combien une maison?
Alors, vous savez, c'est encore pire, il n'y a pas le prix. Quand il n'y a pas le prix, c'est que c'est au-delà de l'imaginable.
Il faut jouer au football, voilà. Sylvain.
C'est ça, c'est ça.
Maintenant,
aller à Dubaï et faire des photos de ses pieds.
Non, à Dubaï, non. Un jour, on m'a demandé ce que je pensais de Dubaï, j'ai dit, il faudrait la raser. Dubaï, c'est pas du tout mon truc. Merci, Bérénice.
Je vous en prie.
Bruno, alors, une fois n'est pas coutume, Bruno va nous faire la démonstration d'un coup de cœur architectural, bien évidemment. On prend la direction de Nice. Je crois qu'on a des visuels également.
Oui, alors je vous emmène à Nice. Je vous emmène en fait dans le carré d'or de Nice, qui est tout près de la promenade des Anglais. C'est devant les jardins Albert Ier. Alors pourquoi je vous parle de Nice aujourd'hui? Parce qu'il y a une synchronisation assez rigolote. C'est qu'il y a deux grands paquebots hôteliers qui viennent de fleurir. Le premier, bon, ça fait déjà un peu plus d'un an, hein, mais qui s'appelle Anantara, qui était une propriété du groupe Covivio. Et donc, c'était l'ancien hôtel Plaza. Et donc, maintenant, il s'appelle Anantara Plaza. Et c'est comme vous l'avez vu. Donc, ce sont des patrimoines historiques, plus ou moins belle époque, hein, qui ont été à grands frais rénovés. Ils ont environ, tous les deux, environ 150 chambres et suites. Bon, c'est à un niveau d'hôtellerie qui est haut de gamme, hein, c'est 5 étoiles.
5 étoiles.
Et à côté, donc, il y a celui-là.
Dis donc, les photos, au niveau du temps, vous auriez pu prendre un peu mieux. Hein,
oui,
à Nice, quand même.
C'est tout en
à
Bretagne. Fait.
pour celle-ci, c'est pas... Mais après, ça sera mieux, je pense. Et voilà. Et donc, ça, c'est une perspective, en fait. Et alors, la particularité de ces deux hôtels, c'est qu'ils ont repris les toits techniques d'origine pour les exploiter et faire des grands rooftops sur lesquels il y a des piscines, figurez-vous, et puis des restaurants gastronomiques avec des vues panoramiques sur...
Des piscines privatives ou des piscines accessibles aux clients d'hôtel?
Des piscines accessibles à tout le
monde. Vous pourriez y passer la journée, Sylvain.
Absolument.
C'est magnifique.
Et on a des vues panoramiques sur les dentelles du Mercantour, en arrière-plan, et devant sur la baie des Anges, la promenade des Anglais.
Et la chambre est à combien?
Les prix, en
on
fait,
ne sait pas le peu, prix, Jean-Marie, ça n'est pas affiché.
Il y a un peu de tout, parce qu'il y a des suites aussi. Hein,
oui.
Donc,
ça va de 500 euros à 10 000 euros la nuit. Quoi.
Je ne connais pas.
Je pense que c'est
comme à Dubaï.
C'est remarqué. Oui, comme à Dubaï. Ouais,
on en revient toujours à Dubaï.
C'est le lieu idéal pour un voyage de noces. Hein.
Oui, c'est... j'ai une autre idée. J'ai une autre idée qui s'appelle le lac de Tibériade. Les pieds dans l'eau. Ça nous rappelle des souvenirs, le lac de Tibériade.
Eh oui, parce que quand même, je voulais citer...
Avec une corbeille à poisson, tu sais. C'est...
je voulais citer le nom de l'architecte, c'est aussi une particularité, c'est que c'est lui qui a rénové les deux hôtels. C'est le cabinet d'architecture Gomis, et c'est un Niçois, voilà.
Super.
Et qui m'a parlé avec amour de ces rénovations patrimoniales où on ne fait pas n'importe quoi, Dans l'un des deux hôtels, sur tout le pied de tout le pied d'immeuble, il y a une quinzaine de boutiques, des commerces.
Oui.
Et voilà, bon, c'est une façon de dynamiser cette ville qui plus on construit d'hôtels et plus de gens viennent.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi des hôtels de haut de gamme qui sont pas quand même, soyons clairs, accessibles à tous, hein, on peut le dire.
Non, mais qui font travailler beaucoup de monde.
Mais qui font travailler, bien sûr, beaucoup de monde. Merci,
et
Bruno.
Juste une chose, Bérénice m'a soufflé mon coup de gueule. Moi aussi, je voulais parler de ce 41% en moins d'investisseurs locatifs.
Bien sûr.
Chiffre de la FPI, qui est un peu tempéré par un plus 9% en accession. Donc, ça redémarre un petit peu. Mais c'est vrai que... aujourd'hui, les investisseurs locatifs sont vraiment très mal menés, hein, très mal traités.
Alors, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, notre ami Chabaz, que vous connaissez bien, puisqu'il est pigiste également sur le journal Le Point, a rencontré le sénateur de Bresse et le député Cosson sur le rapport du statut du bailleur privé. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Je vais poser d'ailleurs les questions sur le sujet à notre grand invité, mais vous avez raison. C'est un vrai sujet, sans compter que les promoteurs sont les premiers... a accusé le coup de cette crise, hein, ça commence quand même sévèrement à durer, et la construction qui a perdu, on est sur plusieurs dizaines de milliers d'emplois détruits.
50 000,
Mais ces deux parlementaires ont présenté leur texte à l'Assemblée nationale, c'est passé, maintenant il va être examiné au Sénat, il va être un petit peu, il est déjà un peu raboté.
Moi, comme d'habitude, on a l'habitude. C'est la montagne qui va accoucher d'une souris.
Voilà,
on a l'habitude.
Voilà, ou d'une grenouille, selon le climat. Bien évidemment. Merci Bruno. Voilà, c'est parti pour le débat avec notre grand invité.
Le grand jury de la presse immobilière, le grand sujet.
J'attends qu'ils s'embrassent.
Soyez sérieux, monsieur Bellevaux.
Je suis toujours.
Désolé. Parlez bien sur votre micro.
Oui,
voilà. Voilà. Xavier Bellevaux, on se connaît depuis quelques années, vous et moi. Vous étiez à la tête de la coopérative Orpi. Vous êtes aujourd'hui directeur général de WeInvest, un réseau immobilier qui se développe de façon assez impressionnante en France et qui a vu sa naissance en Belgique avec deux cofondateurs, Jonathan Pham et Raphaël Mathieu. Voilà, des jeunes entrepreneurs qui ont quasiment révolutionné le métier. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous savez que WeInvest, vous savez, quand Stéphane Plaza faisait ses émissions, vends maison appart, en Belgique, il y a une émission qui s'appelle
Je vends ma maison, tout à fait.
Et qui est animée depuis plus de 4 ans par le réseau WeInvest.
On a vu depuis 5 ans,
c'est la
5e. Cinquième saison. Voilà.
Alors c'est intéressant parce que le réseau existait déjà et ensuite vous avez fait de la télé et donc ça a mis en orbite aussi, si je puis dire.
2010, effectivement.
Donc un réseau qui est quand même assez jeune. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc je disais, vous avez dirigé la coopérative. Alors vous, c'est plus qu'un réseau de mandataires, parce que c'est à la fois un réseau de mandataires, un réseau d'agences. Et en fait, pour vous, il s'agirait, on va dire, de penser l'immobilier de manière originale. D'ailleurs, vous ne vous privez pas. Agence immobilière de vitrine, réseau de mandataires, franchise. C'est un réseau hybride, c'est un réseau nouvelle génération. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous innovez en permanence. Dites-nous quelques mots sur le concept de WeInvest.
En fait, le concept, il est assez simple. C'est-à-dire que tout le monde se rappelle du début des mandataires immobiliers quand ils sont arrivés en 2002 pour les premiers. Ils ont toujours été tapés à boulet rouge. On disait ils ne savent pas travailler. C'était un peu ce qu'on entendait en résonance permanente. Et dans les faits, on est en 2025 et aujourd'hui, le leader en part de marché, aujourd'hui, ce n'est plus un réseau immobilier traditionnel, c'est bien un réseau de mandataires au niveau de la part de marché, même si on pourrait, comme certains le font, dire qu'il y a une histoire de quantité, voilà, parce qu'on dit toujours, oui, mais un mandataire, en réalité, sa moyenne de chiffre d'affaires annuel est de 30 000 euros. Or, un collaborateur en agence, c'est d'environ 70 à 80 000 euros de chiffre d'affaires acté. La problématique, elle est ailleurs. Voilà, et on a une guerre, en fait, que le client final, lui, ne comprend pas. Et ça ne le regarde absolument pas. Vous pouvez faire n'importe quelles études. Vous allez demander à quelqu'un quelle est la différence entre un mandataire immobilier aujourd'hui ou... en réalité, une agence traditionnelle, personne ne fera la différence. Ce qui intéresse le client final, c'est la relation qu'il va pouvoir créer, les conseils qu'on va pouvoir l'apporter. Si c'est un vendeur, qu'on puisse lui vendre son bien dans des délais les plus rapides possibles et dans les meilleures conditions, en réalité. Donc, venant de cet élément-là, et après, je me suis attaqué à un autre sujet, pour avoir beaucoup travaillé en réseau de franchise, depuis, ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier, c'était de me dire, mais comment ça se fait qu'on va imposer à un client qui va signer avec nous, ce qu'on appelle une obligation de rester pendant 5 ans, 7 ans. Et puis alors après, il aura ce qu'on appelle une clause de non-réaffiliation. Il aura l'interdiction totale de pouvoir aller dans un autre réseau immobilier pendant au minimum 1 an. Mais ça veut dire que cette personne, le jour où elle arrête son contrat, Elle a, par exemple, elle est restée 15 ans, mais pendant 15 ans, elle a contribué à l'économie de ce réseau. Elle repart, elle va débourser en moyenne entre 30 et 50 000 euros pour refaire son enseigne, changer son identité de marque. Et il y a une statistique qui est assez aberrante. 75% des personnes qui ont été franchisées retournent dans les 5 ans dans un réseau de franchise. Voilà. Donc en réalité, les choses sont venues comme ça et je me suis dit, bon, on va tout simplement laisser la place à l'entrepreneur aujourd'hui, ce qu'on ne fait pas énormément. Donc on va mettre en place à la fois un réseau de mandataires, géré par le siège avec un système MLM, mais aussi un réseau d'agences traditionnelles.
Alors on va rappeler à ceux qui nous écoutent, MLM, MLM.
Alors Multilevel Marketing, tout simplement c'est le système de parrainage, voilà, avec différents réseaux de niveau de rémunération, niveau palier de rémunération. Et on aura un réseau d'agences flexibles. Aujourd'hui, on le sait bien, quand vous êtes par exemple à Nevers, Bourges ou dans un petit village et que vous avez un local à assumer, que vous avez tous les frais qui vont autour de ce local et une assistante et que vous faites 200 000 euros de chiffre d'affaires, parce qu'il ne faut pas oublier que le chiffre d'affaires moyen d'une agence immobilière aujourd'hui, ça reste en dessous des 200 000 euros de chiffre d'affaires pour un petit point de vente. Ben comment vous faites pour assumer ces charges-là quand vous perdez par exemple un agent co ou un collaborateur? Ben vous ne faites pas. Voilà. Et vos frais sont toujours là et on se retrouve avec des agences immobilières depuis quelques années qui ferment à tour de bras. Donc on s'est dit tout simplement, on va autoriser qu'une agence immobilière, elle puisse ouvrir à la fois en digitalisé, voilà, c'est plutôt important, doit soit directement de chez eux, soit dans un coworking ou autre. Et puis après, on aura par contre des licences de marque, des franchises, et ce n'est pas la même prestation de service. Et la petite nouveauté, on s'est dit aussi, on va faire en sorte que tout le monde travaille ensemble, à la fois les mandataires immobiliers et les agents immobiliers autour d'un fichier commun global. Donc c'était avant tout de se dire, on doit réunir la profession, parce qu'en réalité, c'est une perte de temps. Aujourd'hui, on a des syndicats, je pense, qui pourraient être beaucoup plus forts s'ils travaillaient en collaboration. Et bien plus que en façade. Et je pense que dès qu'on a de la politique dans nos métiers et dans tous les métiers au sens large, hein, ça peut apporter son lot de problèmes. Voilà.
Réaction, Séverine peut-être.
Non, moi je connaissais pas WeInvest dans ce modèle hybride et je trouve ça très intelligent. Parce que c'est la solution à conserver les gens qui travaillent pour vous, qui se donnent pendant des années et qui, in fine, peuvent continuer à le faire sous une autre forme. Donc je pense que c'est un modèle vertueux.
C'est un marche dans les deux sens. On a quelqu'un qui a commencé en septembre 2024 chez nous, quand on a ouvert comme mandataire immobilier. Et bien là, au mois de mai, il vient de racheter une agence. Et donc, il ouvre son agence physique avec 6 collaborateurs. Et on l'a aidé à passer sa carte professionnelle, en réalité, en moins d'un mois.
Donc, Xavier, moi, j'ai une question. Quels sont vos chiffres clés? Parce qu'on présente le réseau, mais c'est...
Alors, on a ouvert en septembre 2024. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a 50 agences signées. 80 mandataires qui sont signés également. Donc voilà, dans une période où on a ouvert en pleine crise immobilière, en décembre 2023, quand on a commencé à développer les choses. Et donc c'est vrai que quand on entend tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, on peut dire que ça se passe plutôt bien. On a également aussi des personnes de grands réseaux, parce que on pensait vraiment que notre agence moyenne allait faire 250 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les agences qui nous ont rejoints sont plutôt des dirigeants indépendants qui ont entre 2 et 3 points de vente et qui font plus d'un million et demi de chiffre d'affaires hors taxes et qui rencontrent des problématiques sur l'IA, qui rencontrent des problématiques sur le marketing de proximité, sur surtout un point élément. Comment on conserve nos collaborateurs aujourd'hui? Comment on les accompagne, les collaborateurs en agence? Mais c'est vrai dans l'immobilier, mais pas que. Ils sont plus intéressés que par la rémunération. Il y a d'autres choses. Et dans l'immobilier, on était très en retard sur comment on incentive, on conserve et on donne du sens à un collaborateur dans son métier au quotidien. Et ça, on a vraiment beaucoup de parts de marché à
aller chercher. On va avancer sur le sujet. Peut-être une réaction, Bruno? Connaissiez déjà?
Oui. Je suis pas très étonné, moi, en fait, de la guéguerre qu'il y a entre les réseaux et puis cette bonne guerre, je pense, hein, à partir du moment où, quand vous dites, nous, on est passé devant, je vais pas citer, hein, c'est normal qu'ils se défendent et qu'ils prennent des arguments en disant, nous, on fait, je sais pas, 10 mandats, alors quand vous en faites 3 ou 3 et demi. Non, ce que je note, c'est qu'un réseau, ça je peux le citer, le réseau Orpi, par exemple, a la velléité d'aller justement maintenant implanter des agences vraiment au cœur de la ruralité. Et ce qui n'était pas le cas, donc c'est le truc inverse. Et ça, je trouve ça veut dire qu'il y a un besoin. Et qui a sans doute une source de profit aussi. Et voilà. Après, je ne sais pas si le client. Ça serait intéressant de demander, justement, d'avoir le ressenti sur ces gens ces personnes qui sont en recherche immobilière et qui. Un peu comme les déserts médicaux. Comment ils souffraient de cette situation et comment ça peut arranger ces choses-là.
Je pense, en fait, que les mandataires immobiliers, par exemple, ils ont commencé par la ruralité. Oui. Ils sont allés s'implanter d'abord dans la ruralité.
Ils sont allés là où il y avait personne. Moi, plus
et par rapport à ce que vous dites sur Orpi, je suis l'initiateur de ce qu'on appelle Orpi Village. Voilà, à l'époque, je l'ai créé. Et le but et l'objectif, c'était tout simplement de pouvoir aller bien plus loin, et peut-être qu'ils le feront, c'est de pouvoir se lier à la Française des Jeux, à des épiceries solidaires, et de pouvoir créer une agence immobilière qui devient un vrai lieu de vie où on puisse à la fois aider. Bah, par exemple, on voit que les banques postales ferment à tour de bras. Les tabacs ont fermé à tour de bras. Et la problématique du tabac, quand vous perdez un tabac, il est perdu pour le département. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le réimplanter. La carotte, elle disparaît. Donc c'était de se dire, on doit faire en sorte de créer demain, dans ces zones rurales où c'est très difficile, où c'est désert, comme vous le dites, bah, un peu une maison immobilière où on aurait des multiservices et on pourrait avoir des lieux de vie. Le projet, en fait, c'était celui-ci. Ce que je trouve très pertinent et intelligent.
On pourrait même avoir une coopérative. Peut-être une épicerie aussi.
Une épicerie solidaire, enfin, des choses comme ça. Ça a été fait comme ça. Et c'est vrai que ça a d'abord été travaillé comme ça. Sur le côté guéguerre, ça c'est tout à fait le business. En réalité, quand on se chamaille pour du bon business, c'est ok et c'est même plutôt sain. Il est devant moi, c'est sain. À un moment, c'était plus sain. C'était à tour de bras dans tous les sens. Et des sources médiamétriques, on n'y arrêtait jamais. Et dans les faits, aujourd'hui, vous le voyez, quand vous faites, j'ai fait une journée entière Place de la République, justement, pour voir, et j'ai interviewé, je crois, plus de 500 personnes. Personne. Il y a une personne qui avait fait la différence entre un mandataire et une agence immobilière, parce que c'était une personne qui avait signé chez Safety, parce que justement, il avait signé avec un mandataire qui avait expliqué.
Je vous rassure, Xavier Belbeau, on a aussi fait des sondages de notre côté. Les clients ne font pas la différence. Une réaction peut-être, Bérénice?
Moi c'est ce que j'allais dire. J'allais dire au final, personnellement dans mon entourage, je crois que j'ai personne du monde de l'immobilier. Et quand je pose la question, personne ne sait ce que c'est qu'un mandataire. Et à la limite, et puis les gens surtout s'en fichent. Enfin, du moment que le travail est fait, c'est ça quand même le plus important. Enfin, un bien immobilier, souvent c'est l'achat d'une vie. Pour une personne, il faut que ce soit bien fait, il faut que l'accompagnement soit bon, peu importe si la personne est mandataire ou agent immobilier.
Et d'ailleurs, peut-être la clé du succès côté Safety, pour la désacralisation de ce mot mandataire, c'est qu'ils expliquent en fait que ce ne sont pas des mandataires, mais ce sont des conseillers. Et du coup, la différence se fait peut-être au travers de ce terme-là. Conseiller, c'est déjà plus clair en termes de compréhension qu'un mandataire.
C'est vrai que quand on dit conseiller, ça dit tout dans le vocable. Mandataire, c'est pas évident. Ce qu'on dit mandataire, c'est pas tout à fait un agent. C'est quelque chose d'un peu hybride, donc c'est tout de suite, ça se dévalorise. Je vous rassure également, Xavier, vous dites ça s'est un peu assaini. Moi, je trouve que ça tape encore un peu fort.
Ça revient, mais voilà. Ça s'était, un petit peu calmé. Voilà, mais c'est vrai que là, ça revient. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est... Voilà. Président de réseau, quand il se voit, se dit « Salut, comment ça va ?» Tout se passe bien, et derrière, boum, boum, boum.
Et justement,
Vous savez, moi, j'ai la même chose dans la radio, vous savez, on l'accueille, ça n'empêche pas certains d'échanger...
Qui vous a fait ça ?
Ça n'empêche pas certains d'échanger des textos pendant l'émission.
Mais on voit aussi que la jeune génération évolue, Sylvain, si je peux me permettre, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ouvre deux agences qui faisaient partie d'un groupe immobilier qui venait plutôt du côté mandataire, et le dirigeant donc, de ce réseau m'a envoyé un message en me félicitant de récupérer. C'était C2I qui a été repris une partie par Efficity. Et donc, pour des raisons XY, les personnes n'ont pas souhaité rester. Et le dirigeant en question m'a passé un message en me disant waouh, c'est super, bonne chance, etc. Et j'ai trouvé que c'était hyper fair. Voilà. Et je me suis dit, ça, c'est une logique constructive, c'est du bon business.
Bien sûr.
Et je ferai la même chose dans l'autre sens. Tu as gagné d'un côté, tu perds de l'autre.
Bien sûr.
C'est le jeu. C'est le jeu. Et je trouve ça plutôt, par contre, hyper encourageant que ce type de personnes. Commence à pointer le bout de leur nez dans l'immobilier, et je pense qu'on a encore une vieille garde et qu'on doit aussi bousculer un peu cette vieille garde.
Sans dénier non plus la réalité, on va y revenir. Vous voulez ajouter peut-être un mot, Régis ?
Alors, juste pour la différence en fait, qu'on pourrait ressentir, elle est purement technique professionnelle, c'est ce qui a été dit. Au-delà, sur les personnes lambda qui ont un besoin d'immobilier, qui veulent acheter un bien, vont regarder d'abord la personne, le vendeur, sa connaissance du marché, c'est l'essentiel. Si on sait accompagner quelqu'un qui souhaite acheter dans son projet, on l'accompagne vraiment sur le démarrage de son projet de vie. C'est ce qui a été dit par Bérénice, c'est un achat qui est très très impliquant pour toute une famille. Donc derrière, il faut savoir faire son métier avec cœur, et c'est la fibre que je rejoins en tout cas chez Bien Ici, alors, sur le cœur de l'immobilier et un métier passion.
On va avancer. Peut-être vous voulez peut-être dire un mot, parce que vous connaissez vous, la différence entre les mandataires et les
agents. Est-ce que les tensions entre concurrents sont fonction aussi de la santé du marché ou pas?
Bien sûr.
Ah oui.
Je pense, oui, il y a la santé du marché, mais il y a aussi quelque chose
qui
est nouveau. Ah oui. C'est-à-dire qu'en récurrence, si on va les appeler non pas des mandataires, mais des conseillers, peu importe.
Fébril.
Aujourd'hui, jusqu'à présent, ce n'était, il faut se rappeler les choses, avant 2020, il y avait essentiellement 50% des mandataires qui étaient en reconversion professionnelle. Depuis 2023, les conseillers immobiliers en agence, qui pendant des années n'ont pas été coachés, accompagnés, fidélisés par leurs dirigeants, deviennent en réalité mandataires et rentrent dans des réseaux de mandataires.
Mais on a des
pour une chose très simple. Le palier de rémunération est rentré dans quelque chose qui paraît plus moderne, des outils qui sont plus accessibles, dans une version plus nomade. Et aujourd'hui, actuellement, on a tous envie de beaucoup plus de liberté.
Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus?
Complètement.
Sur une base 100, qui maintenant, est-ce qu'on peut dire
depuis
que la moitié...
Depuis le début de l'année, si on le voit à la maison de ménagère où je fais partie, si on fait le point des réseaux immobiliers, c'est-à-dire qu'avant, on avait 70% de reconversion, 30%. Aujourd'hui, on est plutôt à 50-50. Et je pense que bientôt, on aura 70-30.
50 qui étaient en agence du coup, décident de devenir mandataire pour une plus grande rémunération et de meilleurs services.
Et aussi une liberté. En réalité, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'agences qui sont transmises traditionnellement de père en fils ou autre. Quand vous arrivez à 9h02 au lieu de 9h, vous avez encore une remarque. Aujourd'hui, la jeune génération, elle est pas même que la jeune, en tout cas, n'ont plus envie de ça. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a envie de liberté et de se prouver les choses. On n'a jamais autant parlé d'entrepreneuriat, de se faire confiance, d'y aller. Donc les gens se disent à un moment, je vais tenter et je vais réussir.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci pour cette présentation longue, mais elle était nécessaire. On va parler du marché immobilier. Vous l'avez entendu, je voudrais que vous réagissiez sur ce que nous a dit Régis. L'immobilier ne va pas bien, pour être très clair. On peut avoir la méthode Coué, dire qu'il y a des signes de reprise, etc. Ce n'est pas simple du tout. Il ne va pas bien parce qu'on considère, et c'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs avec Bérénice et sur tous les grands médias, tout est politique dans le logement. S'il n'y a pas d'impulsion politique, s'il n'y a pas, comment restaurer une confiance à un niveau? Moi, j'ai envie de vous poser cette question. C'est votre avis sur le drame absolu vécu par les étudiants, et merci également à Séverine d'avoir mis le point là-dessus, parce que c'est un vrai sujet de société.
C'est une étude gens de confiance, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit.
Oui.
Mais ils ont interrogé 1000 membres de gens de confiance, dont 72% de parents. Donc voilà.
Je trouve désespérant. On fait des chiffres et on le sait, nous, chaque année, et les choses s'aggravent. On a vu que les agents immobiliers, je prenais les chiffres 2024. Sur les 2024, on a eu 3 causes de mortalité des entreprises qui a battu des records de dépôt de bilan, 60 000 dépôts de bilan en 2024. Sur les activités touchées, les premiers, c'est la construction. Les seconds, les agences immobilières, et les troisièmes, ou l'immobilier un peu plus en général, et les troisièmes, l'hôtellerie. Vous êtes arrivé, bravo, parce que vous avez des résultats assez exceptionnels, pour le dire, sur ce que vous avez fait. Néanmoins, comment vous interprétez les chiffres du marché, et qu'est-ce que vous entrevoyez à l'aube des municipales, des présidentielles, en disant, après tout, vous êtes patron de réseau, comment vous allez peser sur la décision publique?
Il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de choses à dire. Si on revenait déjà d'un étage, je pense qu'il faut quand même qu'on se dise qu'1 200 000 transactions, c'était pas la norme. Voilà. Et que de là, quand j'entends certains qui nous disent on va revenir à 1 200 000, on y croit en 2027, en 2028, je suis désolé du terme, mais pour moi c'est des sottises pour pas dire autre chose. Tout bêtement, la réalité, c'est que pendant des années, avec 850, 900 000 transactions par an, tout le monde vivait très bien. Il y a eu un effet de dumping. Et cet effet de dumping, aujourd'hui, on ne le rattrapera pas. Il y a une cohérence. La deuxième problématique, ça a été le mode de consommation aussi des plateformes immobilières. Il y a de plus en plus de plateformes et de portails immobiliers qui existent. Et on a mal consommé, vis-à-vis de nos clients, les biens. Ça a été un point. Ce qui est important aussi, on dit que oui, c'est la crise, c'est une réalité. Je veux dire, aujourd'hui, la promotion immobilière, on fabrique plus de F3, on a de plus en plus de gens qui divorcent, on a de plus en plus de mères isolées, il y a des listes d'attente dans tous les sens, et la grosse problématique, c'est qu'on ne peut pas les loger. Mais comme on n'a plus de construction, indirectement, il n'y a plus de logement. Et derrière, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on fait des constructions immobilières dans le neuf, les agents immobiliers, c'est un de leurs premiers éléments de vente. Parce qu'un projet de création, il dure en moyenne entre 2 et 4 ans, en réalité. Donc c'est là aussi où on teste la fiabilité du couple. Et souvent, bah, dans l'immobilier, on arrivait, nous, en transaction dans l'ancien, à faire beaucoup de ventes parce que, malheureusement, c'était des divorces ou des séparations qui arrivaient au moment de la livraison du bien. Parce qu'aujourd'hui, on ne les a plus. C'est bien là, on ne les a plus. Donc déjà, forcément, on a compris pourquoi ça commençait à baisser. Autre point, tout à l'heure, vous parliez des taux. En réalité, il faut savoir qu'aujourd'hui, s'il y a moins de demandes sur les maisons, en tout cas, s'il y a moins d'offres sur les maisons, c'est très simple. Avant 2020, on empruntait à moins de 1% sur des maisons. Quelqu'un aujourd'hui qui est CSP, CSP+, et qui en réalité a acheté sa maison, qui a 400 000 euros d'emprunt, et comme on ne peut pas faire la portabilité d'un emprunt. Si on pouvait en France faire la portabilité d'un emprunt, ça serait exceptionnel, parce qu'en réalité...
Vous pouvez expliquer ce que c'est à nos auditeurs, la portabilité?
C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai fait un emprunt à 1% sur 25 ans, il me reste 20 ans, je le reprends et je fais un report. Pour le nouveau bien que je vais pouvoir acheter.
Sur la durée restante.
Sur la durée restante. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, on est obligé de clôturer cet emprunt. Donc, à un moment, quand vous faites vos comptes...
Les banques n'accepteront jamais ça.
Vous êtes propriétaire d'une maison depuis 4-5 ans. Vous avez acheté à 1 ou moins de 1. Vous vous retrouvez à l'époque où il y avait des taux qui étaient supérieurs à 4,50. Avec les problématiques aussi d'assurance, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je ne vends pas. J'attends, en réalité. Parce que je n'ai pas le choix. Même si je veux plus grand. Ben non, en réalité, économiquement, c'est absolument pas viable. Donc ça aussi, ça a été... Enfin, en tout cas, c'est l'une des réponses qu'on pourrait apporter. Par rapport aux étudiants, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, c'est une réalité. Il y a des tests qui ont été mis en place sur du co-living, voilà, dans des maisons qui sont reprises avec des rénovations, etc. Pour autant, ça engrange des frais qui sont quand même très importants parce qu'il faut gérer le ménage, il faut pouvoir gérer les extérieurs quand c'est une maison, etc. Donc ça fait, mine de rien, des budgets qui sont tout de suite à 3-4 000 euros. Donc là aussi, ça ne s'adresse pas, ce n'est pas élitiste. Alors, une solution qui a été trouvée, mais aujourd'hui est encore trop peu présente, on transformait des hôtels préfectures en résidence pour les jeunes. L'avantage, c'est que c'était aussi pris en charge par 80% par la CAF au niveau des propriétaires. On arrivait, à partir de là, on parlait de l'investissement, on a commencé à raboter. Voilà, donc à partir de là, à ce moment, on l'a un peu moins. Mais ça, c'était des solutions qui étaient assez cohérentes. On a mis en place des plafonnements sur les loyers, des règlements sur les loyers, mais ça ne peut pas fonctionner parce qu'en même temps, on a mis en place une loi qui fait en sorte aujourd'hui qu'on interdit à la location les passoires. Aujourd'hui, on ne peut plus. Et en 2028, ça sera F. Donc en réalité, un bailleur aujourd'hui qui a plusieurs biens se dit je peux avoir plusieurs biens, mais je peux en avoir hérité. Mais j'ai tout simplement pas le budget. Et pour des questions d'assiette fiscale, ça va me coûter cher de vendre un bien. Donc en réalité...
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, ils attendent.
On est tous d'accord sur le constat, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution?
Je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire les choses, à un moment ou à un autre, au niveau de notre gouvernement. Je pense que nommer une ministre, et elle est très dynamique, je trouve notre ministre du logement, c'est très bien. Il ne faut pas oublier qu'on en a changé 4 ou 5 fois.
6 fois.
6 fois.
6 fois en 7
ans. 10 fois en 7 ans. La problématique, c'est qu'à chaque fois, on n'a pas les budgets... on n'a pas les budgets en face. Voilà. Il y a plein d'années en arrière, quand on a mis en place le prêt à taux zéro, qu'on a mis en place tous ces ordres-là, qu'on a mis en place des Pinel, etc., mine de rien, ça a dompé notre activité. Parce que derrière, ça a créé de la TVA. Ça a créé de la richesse pour un certain nombre de corps de métier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, on est à l'arrêt. Mais si à un moment, l'État ne se rend pas compte qu'il doit redonner envie à l'investisseur de revenir, on parlait du bail tout à l'heure, du bail privé. Mais en réalité, il faut savoir que plus de 50% du parc locatif est détenu par des bailleurs privés. Donc on peut taper dessus comme on veut, on a besoin d'eux. C'est une réalité.
Et ils logent d'ailleurs a priori 60% de personnes dans le parc locatif privé qui seraient éligibles au logement social.
Donc, je suis absolument pas surpris là-dessus.
Donc ils assument. Alors question, pour entrer dans le vif du sujet, la solution, répondez-moi par oui ou par non, est-ce qu'elle est politique? D'abord politique sur le
fond.
Vous avez absolument raison. Vous voyez, vous avez...
J'avais une chance sur deux.
Vous avez absolument raison pour une raison simple, c'est qu'actuellement, est à l'examen, on a les teneurs de l'accord, de ce qui semblerait être l'accord, sur le statut du bailleur privé. Séverine, ça fait combien d'années qu'on parle du statut de bailleur privé? Je crois 10, 15 ans, 20 ans.
Ça fait 15 ans, je crois.
C'est ça.
Elle en parlait,
on a l'impression que c'est la Madeleine qui revient chaque année. Bruno, on en parle tout le temps, chaque année.
C'est un petit peu là quand même.
Et là.
Depuis le MAPIC, en novembre.
Absolument. Et là, ça devient extrêmement sérieux, puisque il y a une copie, effectivement, comme le disait très justement Bruno, qui a été remise. Je voudrais juste avoir votre avis sur un point. C'est quoi? Alors, grosso modo, on sanctuarise l'amortissement, personne physique ou personne morale. Bref, on déduit une petite partie de la valeur chaque année de son exercice fiscal. Ça redonne un peu de pouvoir d'achat, ça permet de faire des travaux, etc. Sauf que, à la fin, lorsqu'il y a revente, dans l'assiette de calcul de la plus-value, eh bien, ça a été déduit, donc c'est Mortal Kombat, quoi. C'est boum, ça fait un produit taxable quasiment à l'euro, au premier euro. Je voudrais juste avoir votre avis, parce que tout le monde se gausse actuellement sur le principe du système du bailleur privé, alors que peut-être il y a d'autres mécanismes. Voilà, je veux juste avoir votre avis sur cette question, et ensuite je voudrais avoir l'avis des journalistes.
Je pense que le bailleur privé est une très bonne chose. En réalité, je pense qu'à un moment, on a toujours maltraité
les
bailleurs en France.
Techniquement, comment ? Avec quel modèle ? Est-ce que l'amortissement, avec le problème de la plus-value à terme,
avec le LMMP, avant qu'on vienne le raboter à nouveau, là, dernièrement ? On avait cette possibilité de pouvoir déduire un ensemble de frais et revendre dans des proportions très cohérentes, parce qu'on avait de l'impôt qui avait été crédité par rapport à tous les travaux qu'on avait réalisés.
C'est fini,
je pense qu'il faut garder le même système. Je pense qu'on invente trop de choses. Enfin, on veut toujours reprendre et inventer de nouvelles choses, alors que il y a énormément de choses qui ont été faites au cours des années qui étaient plutôt cohérentes et qui étaient plutôt très bien. Voilà. Et je pense qu'il faut arrêter de vouloir faire des réunions dans tous les sens pour refaire et concocter une nouvelle sauce. Il n'y a pas de nouvelle sauce. On a peu d'argent. Parce que la vraie problématique, au-delà de la politique, on parlait tout il n'y a pas très longtemps avec France Rénov, on a des retards de plus en plus importants sur les paiements.
Mais, pardonnez-moi Xavier Bellevaux, je voudrais vraiment avoir une réponse à cette question. L'amortissement, c'est une bonne ou une mauvaise idée ?
Je pense que l'amortissement est une bonne chose.
Et comment on fait pour la plus-value à terme ?
La plus-value temps, je pense
comment
qu'il faut
vous la calculez
revoir. Non,
d'accord,
je pense qu'il faut la revoir.
Donc vous êtes d'accord à condition de revoir la sortie ?
Ah, complètement.
D'accord, ok.
Complètement.
Okay.
Ça a du sens.
Ok. Est-ce que quelqu'un a des informations, justement, sur les contours de ce texte, une réflexion ? Parce que, vous savez, quand on lit le rapport, vous savez ce qu'on se dit ? On se dit, je donne d'un côté, et puis je reprends de l'autre, mais alors je reprends méchamment.
C'est un bisou.
Méchamment. Est-ce que ça vous semblerait logique, parce qu'il y a certains patrons de réseau qui disent la chose suivante : il faudrait assortir un régime dérogatoire de l'impôt sur la plus-value, à condition que pour bénéficier de l'amortissement, on consente à un prix de loyer modéré pendant la durée de détention. Est-ce que ça vous semble du donnant-donnant, quoi.
Juste, moi, je me rappelle d'une stat qu'on a donnée tout à l'heure. C'est combien de moins d'investisseurs en France actuellement ? Moins 40, c'est ça ?
41, oui.
Voilà, moins 41%. Ouais, donc, en réalité, toutes ces mesures...
Dans le 9.
Donc, il faut faire en sorte qu'en réalité, on en ait de moins en moins. Déjà que les banques, avec tous les systèmes qui ont été mis en place ces derniers temps, font en sorte de moins prêter aux investisseurs, parce qu'on regarde un peu plus la capacité d'endettement qu'on n'avait pas avant.
Non, moi je pense que de toute façon la France fait absolument tout pour faire fuir les investisseurs, les entrepreneurs et les gens qui ont de l'argent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça s'enchaîne, c'est un enchaînement de décisions catastrophiques, mais ça va devenir un pays d'assistés, vraiment.
Ça me fait penser, vous rappelez pas dans les guignols reviens, GPP, reviens, la France elle a besoin de toi.
Et la fuite aussi de notre valeur grise, c'est-à-dire de tous nos étudiants qui vont aller...
Oui.
Parce que on n'en parle pas, mais...
La fuite aussi des... Moi j'ai discuté avec... Alors ça, encore un autre sujet, j'ai discuté avec des gars de la crypto, ceux qui ont fait fortune en créant des trucs, ils vont tous partir, c'est pour d'autres raisons, c'est des raisons de sécurité parce que c'est vrai qu'ils sont menacés tous les jours. Mais c'est quand même assez dramatique d'en arriver à ce niveau. On y va droit dans le mur. On se demande si des loyers modérés ce serait pas mal, mais non, en fait, faut arrêter de c'est pas bien.
Le problème, Bérénice, c'est qu'on trouve plus à rien à se loger, et quand on trouve à se loger, on trouve à des prix au mètre carré, tenez-vous bien, dans certains quartiers de Paris qui sont pas les meilleurs, jusqu'à 31 euros du mètre.
Le prix du foncier est trop cher.
Mais qui est capable de payer 35 euros du mètre carré ?
Le prix du foncier est trop cher. Il y a un problème de spéculation autour du prix du foncier, mais c'est pas à l'investisseur particulier de porter ça.
Jean-Marie ?
Non, j'étais plutôt d'accord.
Est-ce que la France...
J'étais plutôt d'accord avec ce que vous disiez sur les loyers. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, c'est logique que vous ayez des expérimentations politiques, même si elles ne font pas plaisir, dans la mesure où on se retrouve dans une situation ubuesque et on ne peut pas d'un côté se lamenter du fait que les étudiants choisissent leurs études en fonction de leur lieu de logement et en même temps commencer à fustiger des tentatives sans doute maladroites et parfois bricolées de maintenir les loyers, les plus modérés possibles, j'allais dire.
Oui, Bruno, vous les aviez, ou les contours du rapport, genre, ça, vous en pensez quoi, vous ?
Moi, à la réflexion, c'est quand je vous entends, je me dis que toute cette situation, c'est la conséquence de quelque chose. La conséquence d'une idéologie, au départ, qu'en ce moment, le gouvernement est en train d'être rattrapé par la patrouille, qu'on voit justement qu'il y a des annonces, notamment sur le logement étudiant, tout d'un coup on envoie des chiffres à tel horizon, tant de milliers, de dizaines de milliers de logements étudiants, ouais, ouais. Parce que c'est vraiment le principe de réalité. Mais il ne faut pas oublier tout de même qu'il y a eu un peu comme les casques d'Obélix, hein, qui, casques romains d'Obélix, qui, sont, qui se sont accumulés. Il y a eu cet encadrement des loyers, il y a eu des diagnostics de performance énergétique ouais. qui ont mis tout ça. Voilà, donc c'est vraiment le ruissellement de tout ça. Et alors vous rajoutez à, les, vous rajoutez à ça des facteurs vraiment temporels de, sur le crédit. Alors, quand vous disiez que la ministre agit, elle... C'est drôle parce que souvent les ministres du logement, et, ils vont être porteurs d'un texte qu'ils n'ont pas eux-mêmes préparé, hein, bien souvent. Hein. C'est eux-mêmes qui le disent. Mais là, c'est vrai que, bon, bah, en plus, elle a été reconduite. C'est vrai qu'on voit des choses quand même qui bougent, l'élargissement du PTZ.
Le PTZ, bien sûr, absolument.
Les, pas de droit de mutation pour les primo-accédants.
Voilà.
Justement,
oui, alors,
dans ce cadre-là.
Ça, en revanche,
franchise et droits de succession.
Les droits de mutation, ça a quasiment rien donné. C'est une niche. Et encore, oui. Combien de personnes.
Ah, je suis d'accord. Qui a les... oui, non, mais je suis d'accord,
faisons,
absolument.
Faisons des
qui
moi,
a 150 000 euros à donner à ses étudiants.
Non, mais soyons faisons clair. Des vraies mesures pour aider les étudiants. Non, non, faisons des vraies mesures pour aider les primo-accédants. On n'a pas tous la chance d'avoir des
d'accord.
parents hyper riches. Quoi.
Il faut les droits de mutation dans le cadre d'une acquisition.
Oui,
voilà.
Oui.
Mais comme on est en France, pour un primo-accédant, ce qui a été mis en place est très bien.
Bérénice parlait de la franchise sur les donations.
Et d'ailleurs, les promoteurs me l'ont confirmé, ça n'a absolument rien donné.
Mais ça ne donne rien, mais c'est vrai. Bon, c'est déjà pas mal, mais bon, voilà, donner qu'à 100 000 euros à donner à ses petits-enfants, quand on sait que la France a un revenu médian.
Mais pour le PTZ, on parle du neuf qui a été élargi, hein, mais pour l'ancien, c'est toujours soumis à obligation de rénovation.
Oui, bien
mais
sûr.
Il
ne
faut,
voilà.
faut pas l'oublier.
Il n'y a pas de dérogation. Il n'y a pas de dérogation.
C'est à chaque fois des briques qui font que bah, le parcours du combattant.
Mais très sincèrement, je pense vraiment que. On a beau dire qu'on n'a pas d'argent, je pense qu'il y a des moments où l'argent sort de notre territoire pour aller un peu partout pour aider. Le logement, c'est une des premières priorités des Français. Je pense qu'à un moment, il faut balayer devant sa porte avant de vouloir aider la terre entière. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, on a besoin d'incitation, on a besoin d'aide. Et ça, c'est primordial aujourd'hui pour que l'économie redémarre. Et je pense qu'on devrait vraiment, en tout cas les personnes qui nous gouvernent, se dire que l'immobilier doit être une pierre angulaire dans les années à venir. Sinon,
pour corroborer ce que vous dites, et on va arriver à la conclusion de l'émission, l'INSEE a publié ses chiffres en comparaison aux chiffres de 2022 sur le taux d'effort sur le logement ou la dépense contrainte. On était à 18%, on est passé à 27% quasiment. Et c'est devenu donc le premier poste de dépense des Français avant l'alimentaire. Donc aujourd'hui, c'est manger ou payer son loyer. Je caricature à peine. Hein, à peine.
Et les étudiants, ils se logent mais ils ne mangent pas.
Hein. Et c'est pire, oui. Alors absolument. Et c'est pire pour les étudiants. C'est vrai qu'avec avec Séverine, on a la chance de faire partie aux côtés d'Isabelle Larochette de la Fondation I Love You. Et on en parlera bientôt parce qu'effectivement, il y a une très belle campagne.
À qui je fais un bisou.
Il faut trouver, on l'embrasse absolument, il faut trouver une solution, il faudra trouver une solution parce que, in fine, finalement, si le politique ne trouve pas les solutions, il faudra bien que ça vienne de la société civile, parce qu'à un moment donné, ça ne pourra plus être le cas. D'ailleurs, certains se posent la question de savoir si le prochain programme de gilet jaunisation ne sera pas issu, finalement, du ras-le-bol du logement. Ce que je vous rappelle, quand même, c'est pour ça que l'histoire est quand même importante, que le coup de gueule est parti d'une vidéo qui était sur YouTube d'une femme qui disait « J'en ai marre, j'en peux plus, je ne peux plus payer mon essence, mon gasoil, etc. » Et c'est parti comme ça.
Hein. Bien sûr.
Donc, un jour, on verra la désespérance de l'état insalubre de certains logements, parce qu'on peut aussi, et on l'a fait avec Bérénice pour rappeler sur Sud Radio, on a parlé de l'état de l'insalubrité des logements. Déjà, le fait d'être logés, ils sont tellement contents qu'ils fermeront leur gueule pour ne pas attaquer le propriétaire à cause de cela. Mais il faut s'en réjouir, quelque part, parce que le droit est passé par là. D'ailleurs, Bérénice, on a un monsieur de 85 ans, on peut dire son nom, il s'appelle Raphaël Zenou, je dis bien Raphaël Zenou, condamné à 3 ans de prison ferme pour avoir loué dans des... C'est, je sais pas si tu as vu les photos ou pas, c'est ignoble.
C'est à Marseille, ça ou...
Vous aviez fait un papier là-dessus.
Oui, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu à Marseille. À Paris.
Le monsieur de 85 ans, 3 ans de prison.
Oui, qui en plus avait menacé les locataires.
Qui menaçait les locataires et c'était marqué dans la presse. Quand on lui a posé la question sur le loyer, il a répondu si les gens sont assez cons pour payer leur loyer, pourquoi je les rembourserais.
Ouais.
Non mais. Ça, c'est aussi le résultat de cette
politique. Oui, après, il y a aussi un bailleur social là, qui va être poursuivi parce qu'il y a certains de ces logements qui sont vraiment en état d'insalubrité, où il y a des moisissures, locataires sont malades.
La personne dont j'ai parlé tout à l'heure, d'ailleurs, on en a parlé dans l'autre émission qui s'appelle Marine Lebon, qui a été greffée des poumons. On a trouvé la causalité de sa greffe, c'est les problématiques d'humidité et de remontée capillaire, c'était un logement social.
Bah ouais.
Et donc elle attaque le bailleur social qui est aujourd'hui un bailleur social francilien. Mmh. Voilà. Il va être bientôt temps de nous quitter. Je voudrais juste qu'on fasse un petit tour de table chacun sur justement les propos que nous avons échangés. On va commencer par Bourégis.
Alors sur les propos, on est tous d'accord que le logement, c'est la grande question du moment et ça va l'être de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une offre qui est complètement inadaptée par rapport à une demande, déjà d'une part. On ne va pas dire qu'on va manquer complètement de logement. Du logement, il y en a, mais il n'est pas forcément adapté. Il n'est pas adapté parce qu'il ne va pas être forcément au bon endroit ou il ne va pas être dans la bonne typologie. Et là, ça crée déjà un premier dérèglement. Quand on ajoute à ça l'équilibre de prix de loyer qui ne va pas dans les conditions sur l'encouragement des jeunes et la dynamique, forcément, on ne va pas aider tout le mouvement économique qui l'en suit. Donc oui, on est sur un gros problème qui s'empire de plus en plus. Mais néanmoins, je pense que tout le monde a envie d'avoir un bien chez soi. Et c'est peut-être ça qui nous sauvera et qui aidera à trouver des solutions, au moins du côté civil.
Ouais, moi je dirais avoir un bon coin pour se loger, ça serait pas mal. Merci. Conclusion, Séverine, quelques mots.
Alors moi je vais conclure sur une note positive quand même, en disant que des solutions, il y en a qui ont été évoquées depuis très longtemps par les acteurs du logement, notamment au travers du Conseil national de la rénovation. Il y a une mine de solutions qui existent.
Bien sûr. C'est ça qui est frustrant, c'est qu'on se dit...
Et je trouve qu'il faut arrêter d'être hypocrite en nous demandant à nouveau de plancher sur des, sur des solutions. La profession en a émise beaucoup, reste à piocher dedans et à les mettre en application, mais de rentrer dans l'action. En fait, ce qui manque, c'est l'action.
Ouais,
voilà.
Ouais, c'est pas un think tank, c'est un do tank.
Voilà, c'est ça, do tank.
Ouais, absolument. Bruno.
Moi, je voulais... à la fois tempérer les inquiétudes et puis les mettre en relief. C'est-à-dire tempérer les inquiétudes, je pense qu'à court terme. Voyez, sur cette année, il y avait la BPCE là, qui a sorti un rapport. Hein, on envisage plus de 900 000 transactions, ce qui est quand même un chiffre relativement bon.
Vous êtes d'accord
Ah oui, je trouve ça très bien.
On sera à 900 000 en 2023
Bien sûr. D'accord. Je trouve que l'activité, en tout cas, va mieux. Et même certains promoteurs sur le deuxième, en tout cas, trimestre, sont très contents. Les acquéreurs, les primo-accédants reviennent.
Voilà. Ça veut dire que c'est 130 000 transactions supplémentaires d'une année sur l'autre.
Il se passe tout la même chose. Parce que là, j'ai encore vu un post sur LinkedIn où un promoteur, c'était tout à l'heure, disait... Normaire Fanchon, pour ne pas le citer, disait c'est pas vrai, ça repart pas. Ça dépend, je pense que ça dépend des endroits, ça dépend
Et puis ça dépend peut-être aussi de la typologie d'actifs qui sont faits dans le cadre de la promotion.
Oui, terminez.
Ensuite, si on regarde à plus long terme, c'est... moi, je pense que c'est un peu comme un tsunami. Hein. On voit la vague qui arrive, le vieillissement de la population.
Très juste.
C'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. Hein, et on sait ce qui peut en coûter pour loger les personnes âgées dépendantes. Donc, il y a des sujets vraiment forts. Le logement étudiant, on en a parlé, reparlé, mais c'est quelque chose. Parce que, pendant ce temps-là, il faut faire attention aux statistiques, mais la vie des gens au quotidien, hein, qui peuvent colouer à plusieurs, etc. Enfin bon, c'est quelque chose. Donc je pense qu'il y a des sujets majeurs, des sujets d'État politique où le politique doit intervenir, c'est son rôle. Hein, voilà, avoir une vision, non pas toujours le temps du politique très court, mais où on réagit parce qu'on voit que ça grogne, hein, mais en tout cas à moyen terme ou à long terme. C'est ça que moi je souhaite pour le futur.
Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'un jour, je supporte mieux la clim, parce que je peux vous dire que c'est pas évident quand on a une climatisation. En tout cas, merci pour ces précisions. Jean-Marie, est-ce que le salut sera forcément politique ?
En tout cas, ça dépendra du prochain ou de la prochaine présidente de la République.
C'est bien ce que je pense.
En espérant qu'il ou elle puisse disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Comme ça, quelle que soit la politique qui sera lancée, elle pourra être lancée de manière stable et coordonnée pour 5 ans, espérons.
Et pour l'instant, rien n'est moins sûr.
Bérénice.
Eh ben, moi, je vais terminer sur une note plutôt positive en rejoignant plus ou moins Séverine. C'est que on n'a jamais parlé autant du logement et de l'immobilier. J'ai l'impression que tous les médias en parlent désormais. Et bon, voilà. Voyons ça comme un. Alors, ok, ça va mal, mais voyons ça quand même comme quelque chose de positif.
Mettez vos téléphones en mode avion. On a des grésillements sur la ligne. Si vous avez des gens qui ont allumé, voilà, soyez sympas. Parce que là, je peux vous dire que notre ami Théo le lutte durement pour maintenir la connexion. Pardonnez-moi, mais ça... Pourtant, oui, reprenez, Bérénice.
Non, mais j'avais terminé. Je disais que le point positif, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de médias, en tout cas, qui s'emparaient du sujet du logement et de l'immobilier.
Ça, c'est plutôt là, une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, je me rappelle, quand il y a eu la publication du rapport, rappelez-vous, de la Fondation Abbé Pierre, qui a été dramatique. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu. Le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, enfin, c'est une catastrophe. Et avec Séverine, ex-Abbé Pierre, ouais, pardon, oui, absolument.
La Fondation pour le logement des défavorisés.
J'ai du mal quand même à ne pas dire l'Abbé Pierre. Bon, voilà, moi, je ne suis pas obligé d'être forcément politiquement correct. Mais parce que pour peut-être pas jeter bébé avec l'eau du bain, enfin, bon, voilà, il y a des choses comme ça. J'adore ce pays parce qu'on brûle les icônes ici. On adore brûler nos icônes.
Enfin, là, c'était pas une icône quand même. Hein. On va pas.
Oui, mais enfin.
Vous voulez vraiment qu'on lance ce débat
simplement
que j'aime pas hurler avec la meute, voilà.
Et personne n'a hurlé.
Voilà. Non, mais voilà. Ce que je voulais dire, c'est que la situation, non seulement elle s'est pas arrangée, mais dans ce rapport, on fait la moyenne sur les trois dernières années, mais c'est incroyable.
Ouais. C'est dramatique.
Je veux dire, on peut pas rester insensible à ça.
Et beaucoup de médias en ont parlé.
Absolument. et justement, on est sur un sujet. Et ce que je disais, c'est qu'avec Séverine, on a cette chance de pouvoir être utile dans une fondation qui s'appelle Aïe le Joux, qui est sous l'égide de la Fondation de France, pour essayer de trouver des solutions. Et c'est vrai que vous avez raison. Toutes les solutions, en réalité, elles existent. Et elles ont même été chiffrées. Mmh. Et on a même la valeur ajoutée pour l'État. Et on a l'impression d'avoir porte close. Mmh. Effectivement, moi, je suis comme Jean-Marie, je pense que le résultat, il se trouvera dans les urnes, avec tout le corollaire malheureux qu'on peut y trouver également, entre les municipales de 2026, qui va quand même sévèrement bloquer, parce que je veux dire qu'il n'y a pas de permis qui va être signé là, hein, pendant jusqu'au municipal. Tout va s'arrêter, parce qu'elle
boulangère. Ça, c'est comme tous les 6 ans.
Oui, on a parlé. Et ensuite, on enchaîne avec les présidentielles. Donc, c'est un vrai sujet. Je vais vous laisser la conclusion. Xavier Bellevaux, on était ravis de vous recevoir. Voilà, quel est votre ressenti? Et c'est vous qui avez le final.
On a dit beaucoup de choses, des fois un peu négatives, quelque chose de positif. Moi, de mon côté, en tout cas, en étant sur le terrain, je trouve que quand même les choses s'arrangent. Les choses vont de mieux en mieux. Que oui, c'est pas facile, certes.
C'est pas de la méthode Coué, ça.
Voilà. Non, je pense que, comme Jean-Marie, la personne, si elle pouvait avoir une légitimité globale, on va gagner du temps et des tours.
Moyen de sa politique,
voilà,
en tout cas.
Mais pour ça, il faudra encore que cette personne prenne directement le logement comme axe majeur de son programme électoral, parce que je crois que ça reste, en tout cas, et j'en suis convaincu, la pierre angulaire de toutes les Françaises et tous les Françaises, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de se loger, voilà, on a besoin de louer des biens. Je pense aussi qu'on a besoin de réadapter un peu nos calendriers, c'est-à-dire que l'État fait des choses, par moments, bien, d'autres où on pourrait aussi être un petit peu plus souple dans les calendriers, parce qu'on a On parlait des étudiants, on a beaucoup de mal à louer. Et on a beaucoup de mal à louer parce qu'il n'y a pas de bien. Et parce qu'aujourd'hui, toutes ces mesures qui aujourd'hui... Je ne dis pas qu'il faut les freiner, bien au contraire, parce que je suis pour. Mais je pense qu'on pourrait peut-être laisser un peu plus de temps. Et il y a des moments où on est très, en France, je trouve, on-off. Et je pense qu'un peu de nuance serait pertinent.
Merci beaucoup, Xavier Bellevaux. Je rappelle que vous êtes le directeur général de WeInvest. On vous trouve facilement, bien évidemment, sur Internet. Il est temps aussi de donner les remerciements d'usage pour la production de cette émission. Merci à Théo Benoît-Hambourg, qui est de l'autre côté et qui nous pilote. Merci également aux équipes de Bien Ici, à Grégory Delpoupeau, le tout jeune papa que nous avons. Un petit clin d'œil pour lui. Un immense merci également aux équipes avec Zineb, avec David Benbassa, son président, Didier Monnet, toutes les équipes du Bien Ici, bien sûr, notre Régis National. On vous retrouve le mois prochain, mon cher Régis.
Bien sûr.
Voilà, pour une météo de l'IMO, notre partenaire Bien Ici, bien évidemment, le portail qui va bien et qui aujourd'hui rend de réels services sur le plan du logement. Merci à Bruno Meunier-Vinard, le journaliste du Point. D'ailleurs, on a bientôt un dossier qui va sortir.
Alors, il y a un spécial immobilier le 5 juin, dans lequel vous trouverez notamment une interview de Thierry Laroupon faite par Sylvain Lévy-Valency, où Thierry Laroupon montre les pistes, notamment sur les transformations d'usage. Il y aura aussi une interview de M. Daubresse et Cosson, dont on parlait tout à l'heure. Et enfin, là, une interview de M. Florian Bercot, qui est le président de la commission des éco-quartiers.
Voilà, et le maire de Laval, en même temps.
Voilà. Et la mienne.
Voilà. Donc voilà un très beau. Alors c'est pas pour parce que j'ai signé l'article, mais un très beau portrait de Thierry Laroupon avec de très belles images notamment. Je vous engage vraiment si vous avez la possibilité d'y aller, c'est d'aller au siège de BNP Paribas qui s'appelle 57 Métal ou Métal 57, qui était les anciennes usines en face à l'île Seguin de Renault, dans laquelle il a créé une rue intérieure. On rentre dans l'immeuble et on peut en sortir. C'est une rue dans laquelle on peut faire ses courses. Il y a des magasins et il y a tout un ensemble. C'est absolument magnifique. Et ce qui est génial dans cet immeuble, c'est qu'il a gardé la structure industrielle d'origine. Et franchement, c'est sur au quai du Point du Jour à Boulogne. Ça se visite avec beaucoup de plaisir. Merci Séverine Amat.
Merci à vous.
Voilà, on vient de me dire que votre ronde service est gravée.
Très bien.
Donc vous faites partie du club et donc on vous dit au mois prochain.
Quand vous voulez.
En tout cas, vous êtes la bienvenue. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente d'Amat Résonance. Voilà, c'est la bonne adresse, le bon numéro de téléphone lorsqu'on veut doper l'image de son réseau, la pertinence de presse, parce que vous connaissez quasiment toute la presse aujourd'hui. Merci Régis Sebi, monsieur Data de Bien Ici. On vous retrouve le mois prochain pour quasi. Je crois qu'on sera la dernière de la saison sur. Le grand jury de la presse immobilière. On va revenir, rassurez-vous, à la rentrée, bien évidemment. Un immense merci à notre rédactrice en chef nationale, Bérémis de Villefloriot, qu'on retrouve tous les jours sur l'antenne de Radio Immo. Un immense merci à notre Jean-Marie Bordry. On se retrouve samedi dès 9h15 pour l'émission Parlons Immo. Merci également aux équipes de WeInvest et surtout, je n'oublie pas notre producteur préféré, petite mention spéciale pour Grégoire Daricot. Voilà, au mois prochain, prenez soin de vous.
Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.immo et sur toutes les plateformes de streaming.